Vous écoutez France Culture. C'est le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après des mois de calculs savants, mais aussi de luttes d'influence en coulisses, Emmanuel Macron dévoile depuis ce matin sa programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 prochaines années. Le chef de l'État a notamment annoncé que 12 réacteurs nucléaires seraient arrêtés d'ici 2035, en plus des deux de Fessenheim. Et puis le président a également annoncé une grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale qui doit permettre dans les 3 mois qui viennent de répondre à la colère des Gilets jaunes.
Les Restos du Cœur lancent aujourd'hui leur 34e campagne d'hiver.
Thomas. Oui, et ce, dans un climat de forte inquiétude concernant non seulement l'âge des bénéficiaires de plus en plus jeunes, mais aussi une baisse significative des dons.
L'instauration de la loi martiale en Ukraine, dans votre journal également, et ce, après l'incident dans le détroit de Kerch, risque-t-elle de provoquer une escalade du conflit dans l'est de l'Ukraine?
Ce matin, Moscou, quoi qu'il en soit, mise en garde Kiev contre tout acte irréfléchi. Enfin, la Chine a ordonné une enquête pour vérifier les affirmations d'un scientifique chinois qui assure avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire, un acte décrit par de nombreux chercheurs comme une folie, une annonce retentissante qui illustre, quoi qu'il en soit, le laxisme de la réglementation sur la bioéthique en Chine. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Oui, retour sur un destin juif et européen, une destinée singulière qui interroge à la fois notre rapport à la mémoire personnelle et collective avec Robert Badinter. Il publie aujourd'hui Idis chez Fayard, un livre hommage, un livre témoignage à sa grand-mère maternelle exilée, partie de Bessarabie pour Paris. Avec lui, nous retracerons donc ce chemin à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Si l'essence, c'est pas Bibi, comme il avait lui-même pris soin de le préciser, en revanche, rendre sa grandeur à notre planète, ainsi qu'il l'avait également formulé à travers une autre sentence non moins jupitérienne, c'est bien son affaire à lui, de sorte que pour faire la preuve qu'il demeure le champion toute catégorie de la lutte contre le changement climatique, Emmanuel Macron a non seulement annoncé ce matin la création d'un haut conseil pour le climat, afin d'expertiser les politiques publiques, mais aussi dévoiler sa très attendue programmation pluriannuelle de l'énergie, devant fixer dans la loi le cap de la politique énergétique française d'ici 2028. Et parmi les annonces les plus remarquées, Emmanuel Macron a notamment annoncé la fermeture donc de 14 des 58 réacteurs nucléaires français d'ici 2035.
Reste le sujet que je sais attendu du nucléaire, car la montée en puissance des énergies renouvelables en France est inéluctable, est au cœur des engagements du gouvernement et elle n'est en aucun cas liée au rythme de fermeture des centrales nucléaires dans les prochaines années. Le nucléaire nous permet aujourd'hui de bénéficier d'une énergie décarbonée et à bas coût. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons engager un travail sur une nouvelle régulation du parc nucléaire existant, car le dispositif actuel qui permet aux Français d'avoir les prix de l'électricité parmi les plus bas d'Europe s'arrête en 2025. Il est pourtant indispensable que les Français puissent en bénéficier au-delà, tant que les réacteurs nucléaires sont toujours en activité. Je n'ai pas été élu, pour ma part, sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. J'aurais souhaité pouvoir le faire dès 2025, comme le prévoyait la loi de transition énergétique. Mais il s'est avéré, après expertise pragmatique, que ce chiffre brandi comme un totem politique était dans les faits inatteignable. Nous avons donc décidé de maintenir ce cap des 50%, mais en repoussant l'échéance à 2035.
Le président Emmanuel Macron qui vient tout juste d'achever donc son discours depuis l'Élysée. Maïwenn Dubucheron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place. Que faut-il retenir des mesures annoncées par le chef de l'État, peut-être? Et pour commencer, s'agissant notamment donc de ce volet nucléaire, faut-il également préciser que la France ne décidera pas avant 2021 de la construction de réacteurs EPR supplémentaires?
Oui, 3 scénarios avaient été envisagés pour cette PPE. Un premier défendu par les différents ministres de la transition écologique, Nicolas Hulot, puis François de Rugy. Un autre, plutôt intermédiaire, et un dernier pro-nucléaire défendu par Bercy et EDF. C'est finalement le premier qui aura été privilégié. Emmanuel Macron a annoncé, vous l'avez dit, la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035. 14 des 58 réacteurs que compte aujourd'hui la France. Le président a confirmé que les 2 réacteurs de Fessenheim seraient fermés d'ici l'été 2020. 2020. 12 autres réacteurs seront fermés entre 2025 et 2035. Une échelle plutôt haute par rapport à ce qui avait été envisagé et qui se rapproche des revendications des ONG environnementales. Le calendrier n'est pas encore fixé, ni la liste des sites concernés. Elle sera précisée prochainement. Le rythme de fermeture n'a pas non plus été fixé. Le président de la République annonce qu'il variera en fonction de l'évolution du mix énergétique. Et à noter qu'aucun nouvel EPR ne devrait être construit d'ici la fin du quinquennat. Emmanuel Macron l'a également répété à plusieurs reprises, il ne s'agit pas de sortir complètement du nucléaire. Aucun site ne sera d'ailleurs complètement fermé pour EDF. Le nucléaire reste, selon lui, une piste prometteuse pour compter sur de l'énergie fiable et à bas coût.
Et puis au-delà donc de cette question strictement nucléaire, Maïwenn, le président a également appelé à se désintoxiquer des énergies fossiles.
Oui, il a insisté sur sa responsabilité à garantir l'accès à tous à une énergie propre et peu coûteuse. Il a confirmé que l'ensemble des centrales à charbon seraient fermées d'ici 2022. Le plan s'appuie également sur les énergies de substitution comme la géothermie ou la méthanisation. La production du parc éolien terrestre va lui être triplée d'ici 2030, comme celle des panneaux photovoltaïques qui sera multipliée par 5. L'État investit aujourd'hui 5 milliards d'euros par an dans les énergies renouvelables. Demain, selon Emmanuel Macron, 7 à 8 milliards d'euros par an pourraient y être consacrés. La PPE devra également permettre de consommer moins d'énergie pour se déplacer et pour se chauffer. Prime à la conversion, chèque énergie, renouvellement des chaudières à fioul. Emmanuel Macron a confirmé les mesures évoquées par le Premier ministre Édouard Philippe il y a quelques semaines, tout en appelant à la pédagogie pour faire comprendre ces mesures à la population. Pendant 3 mois, cette programmation pluriannuelle de l'énergie va donc être débattue dans l'ensemble du territoire.
Merci Maïwenn Bordron en direct de l'Elysée ainsi qu'à Yvan Turc pour les moyens techniques. Et pour continuer d'évoquer toutes ces questions autour de la politique énergétique de la France, invité aujourd'hui Neil Makarov, responsable des politiques européennes au réseau Action Climat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors nous venons d'entendre les grandes lignes de cette fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie que le ministre de la Transition écologique François de Rugy doit d'ailleurs encore préciser dans le détail dans quelques minutes. Mais d'ores et déjà, les pistes avancées vous semblent-elles aller dans le bon sens ?
Emmanuel Macron a pris acte que la France ne respectera pas ses objectifs climatiques et qu'elle est très en retard également sur sa transition énergétique. La France, c'est le mauvais élève européen sur les énergies renouvelables et aujourd'hui sur les économies d'énergie dont tout le monde parle aujourd'hui. La France est extrêmement en retard et malgré cette situation qui est difficile, le président de la République a proposé une méthode, une concertation qui est nécessaire, qui est louable, mais d'un autre côté n'a pas proposé d'actions supplémentaires concrètes pour inverser la tendance. Voire pire, il a fait un recul significatif sur le nucléaire qui sera, on atteindra les 50% de nucléaire dans le mix énergétique en 2035 au lieu de 2025, donc 10 ans de recul au même moment où RTE, qui est le gestionnaire de transport électrique français, qu'on ne peut pas vraiment accuser de militer aux côtés des ONG, dit qu'on peut atteindre cet horizon des 50% en 2030 et fermer 14 réacteurs nucléaires d'ici 2030. Donc on voit que la politique d'Emmanuel Macron sur l'énergie est très timorée et elle risque de freiner la transition énergétique en France au même moment où dans la plupart des pays européens, les énergies renouvelables font un vrai bond et s'accompagnent de création d'emplois et d'économies d'énergie partout en Europe. Donc on remet finalement à plus tard cette transition énergétique, ce qui est extrêmement inquiétant.
Alors, cette question du nucléaire, justement, concentrait une grande partie de l'attention, tant elle est lourde d'enjeux, à la fois industriels, politiques, financiers. Vous parlez de recul significatif. Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de 12 réacteurs d'ici 2035, en plus des 2 de Fessenheim déjà actés. Ça veut dire presque un quart du parc total. C'est tout de même assez inattendu dans de telles proportions.
On devait atteindre cet horizon en 2025. Là, on repousse cet objectif de 10 ans, alors même que les experts, les études montrent qu'on pourrait atteindre cet objectif en 2030. Grâce aux économies d'énergie, c'est-à-dire rénover plus les logements, aucune mesure n'a été vraiment annoncée sur la rénovation en profondeur des logements, alors même qu'on sait qu'il y a 5 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique, et ça peut être une mesure qui est à la fois environnementale et sociale. Et par ailleurs, le développement des énergies renouvelables aujourd'hui en France est nettement inférieur à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment dans les pays européens. Et donc, si on arrive à vraiment faire des économies d'énergie et développer les énergies renouvelables, on peut substituer le nucléaire de manière beaucoup plus rapide. Néanmoins, c'est vrai que Emmanuel Macron a ouvert la porte à une coordination européenne de la transition énergétique en disant que certains réacteurs pourraient être fermés en fonction de la sortie du charbon en Allemagne. Il se trouve que, malheureusement, les annonces qui ont été faites sur les réacteurs du nucléaire ne sont pas un très bon signal au niveau européen. On est en train de construire cette Europe de l'énergie au niveau européen, on est en train de la bâtir, celle qui pourra nous apporter une énergie sûre, peu chère et surtout décarbonée. Et il se trouve que le nucléaire français aujourd'hui est un verrou. Parce que la plupart des pays européens sont dans la transition énergétique et que la France apparaît comme un pays immobile, prisonnier du nucléaire. Et ça, c'est vraiment un verrou, notamment pour les Allemands, qui, au moment où ils vont décider de la sortie du charbon, ne veulent pas pour autant importer de l'électricité nucléaire française. Et donc, finalement, s'opposeront à cette sortie du charbon accélérée parce qu'ils ont peur du nucléaire français. Donc, c'est vraiment un problème au niveau européen également.
S'agissant des émissions nationales de CO2, la France a même excédé de 7% le plafond à ne pas dépasser l'an dernier. Ça veut dire qu'on est très loin des objectifs. Est-ce que vous diriez que, du coup, à une semaine maintenant, et même un peu moins de l'ouverture de la COP24, eh bien, les annonces de ce matin d'Emmanuel Macron devaient surtout faire la preuve au reste du monde que le chef de l'État est toujours engagé dans la lutte contre le changement climatique ?
Emmanuel Macron se veut leader sur la scène internationale et européenne sur le climat, mais malheureusement, comme on l'a vu, les objectifs climatiques français sont mauvais, les émissions continuent à augmenter, et il se trouve que dans deux secteurs, le transport et le bâtiment, ce sont ces deux secteurs où les émissions augmentent le plus. Et malheureusement, il n'y a pas de mesures concrètes qui ont été annoncées ce matin dans le secteur du transport pour vraiment se débarrasser des énergies fossiles à l'horizon 2030 dans le secteur des transports, ni dans le secteur du bâtiment. Emmanuel Macron a annoncé le remplacement des chaudières au fioul. Certes, c'est une bonne mesure, ça va dans le bon sens, mais remplacer sa chaudière au fioul par un chauffage plus efficace mais dans une passoire énergétique maintient le problème, c'est-à-dire qu'on continue à consommer trop d'énergie. Ce qu'il faut, c'est des rénovations profondes des logements pour véritablement baisser la facture écologique et sociale des Français. Et ça, c'est malheureusement, il n'y a pas eu d'annonce dans ce sens-là ce matin.
Outre cette programmation donc pluriannuelle de l'énergie, le président de la République a également installé aujourd'hui un haut comité pour le climat. Qu'est-ce que cette nouvelle instance, qui est constituée donc de 13 membres, parmi lesquels des économistes, des scientifiques, des représentants de différents think tanks, fera de plus en somme que les multiples autres comités d'experts déjà existants ?
C'est une très bonne question et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Il se trouve qu'il y a déjà de nombreux comités d'experts qui existent. On a un ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce haut conseil peut être intéressant si il met en place des avis que doit suivre le gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit transparent et que le gouvernement soit redevable des avis de ce haut conseil. Autrement, ça sera simplement un nouveau comité en plus parmi tous ceux qui existent déjà. Et ça, malheureusement, c'est un peu c'est dommageable. On a besoin vraiment d'une feuille de route secteur par secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et j'espère que ce Haut Conseil aura ces pouvoirs-là et pourra donner des lignes directrices très claires aux différents ministères.
Merci. Neil Makarov, responsable des politiques européennes au réseau Action Climat, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Merci. Alors évidemment, fixer comme il l'a fait ce matin le cap de la transition énergétique en mêlant urgence et long terme était aussi une manière pour le chef de l'État de répondre à la fronde des gilets jaunes, étant entendu que les mesures annoncées jusqu'à présent par Édouard Philippe n'ont pas empêché la poursuite du mouvement de protestation. Alexandra Dubucheron, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour.
Difficile évidemment pour l'instant de savoir si ces annonces du chef de l'État ce matin seront de nature à répondre ou non à la contestation populaire. Peut-on pour autant d'ores et déjà parler, Alexandra, de discours de sortie de crise ?
En tout cas, c'est bien la volonté affichée du chef de l'État. Rappelons que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron parle des gilets jaunes directement et on l'a vu dans les mots employé son souhait de casser l'image de froideur et de détachement qu'on lui a reproché parfois. J'éprouve de la compréhension, dit-il, pour ces citoyens qui veulent faire passer un message. J'entends la colère sourde, ce sont ses mots. Alors, pas de changement de cap, il avait prévenu, il l'a répété tout à l'heure. Je ne me plierai pas à ces habitués de la politique qui attendent de moi un renoncement. Une référence bien placée à la vieille politique ou à cette tribune peut-être signée ce matin par 12 des 13 présidents de région qui réclament un moratoire sur la hausse des taxes prévue au 1er janvier. Pendant 50 minutes, Emmanuel Macron s'est donc montré pédagogue, revenant sur la nécessaire transition écologique, promettant de régler à la fois le problème des fins de mois et celui de la fin du monde. Il a annoncé deux mesures. D'abord, une évaluation sur la fiscalité sur les carburants tous les trimestres, de mesures à l'intention des Gilets jaunes. Et puis des concertations sur le terrain au niveau local dans les trois prochains mois pour trouver des solutions adaptées, ce sont ses mots. Et s'agissant des Gilets jaunes, conscients de la difficulté à faire entendre leur voix, eh bien ils ont annoncé hier qu'ils s'étaient dotés d'une délégation de 8 communicants officiels nationaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'expression d'une parole non filtrée, donc le début de la fin pour le mouvement des Gilets jaunes? Eh bien, l'avenir le dira, mais effectivement, cela pourrait casser le sens même de cette mobilisation, à savoir une représentation démocratique immédiate et justement sans intermédiaire. Et puis c'est un mouvement qui reste très fragile, difficile d'y voir un mouvement 5 étoiles comme en Italie, Podemos en Espagne. Ici, aucun leader charismatique et incontesté ne sort du lot. Pas d'homogénéité politique, pas d'homogénéité sociale non plus, comme le rappelle Guy Groux, sociologue et chercheur au CEVIPOF.
À partir du moment, effectivement, où il existe un mouvement extrêmement disparate, de l'indépendant au chômeur, en passant par le salarié, etc., etc., où il y a des leaders qui se sont affirmés un peu partout dans les régions, et où ces 8 communicants ont été déjà mis en cause, on peut dire que cette position est très très fragile. D'ailleurs, le gouvernement l'a bien compris, puisque pour l'instant, il n'était pas envisageable de recevoir cette délégation de communicants qui s'est instituée hier.
Alors, si ces 8 communicants n'ont pas été reçus aujourd'hui à l'Élysée, Emmanuel Macron a tout à l'heure quand même invité les représentants locaux des Gilets jaunes à se joindre aux concertations dans les territoires dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on vient de l'apprendre, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, annonce qu'il va recevoir une délégation des Gilets jaunes tout à l'heure.
Merci Alexandra Dubouchereau. Alors, en pleine mobilisation sur fond de baisse du pouvoir d'achat, eux mesurent chaque jour le désarroi à la fois financier et social d'une partie de la population. Ce sont les Restos du Cœur qui lancent aujourd'hui leur 34e campagne d'hiver. Or, les inscriptions ont à peine commencé que déjà l'association s'attend à recevoir cette année autant, voire plus de bénéficiaires. On parle de 900 000 personnes prêtes à venir frapper à la porte des restos, des familles monoparentales, des retraités, mais aussi de plus en plus de jeunes. Près de la moitié auraient moins de 25 ans. Et puis, autre raison de s'inquiéter, l'association accuserait par ailleurs une baisse très inquiétante des dons d'environ 6,5% par rapport à l'année dernière et qui pourrait même aller jusqu'à 15% selon les derniers indicateurs. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors face à l'ampleur des besoins, les Restos du Cœur cherchent toujours de nouvelles sources d'approvisionnement et cela pourrait notamment passer par un mouvement mondial initié en 2012 aux États-Unis mais qui débarque pour la première fois en France cette année, le Giving Tuesday.
Et Giving Tuesday, c'est cet événement mondial présent dans plus de 150 pays qui donc arrivent en France. Un appel en quelque sorte lancé à tous pour faire preuve aujourd'hui de générosité de différentes manières, en donnant son sang, un petit peu d'argent à une association, voire même un petit peu de temps. Et du temps, de l'argent, c'est surtout c'est bien ce qu'attendent les associations caritatives mobilisées pour l'événement. D'après un baromètre publié par France Générosité, les dons ralentissent clairement ces derniers temps. Une baisse, vous l'avez dit, de 6,5% sur le premier semestre 2018. La faute aux réformes fiscales récentes, l'augmentation de la CSG d'abord qui a freiné la générosité des seniors, la fin de l'ISF également qui n'incite pas les plus aisés à défiscaliser leurs dons, ou encore le doute sur le prélèvement à la source pour des donateurs, parfois convaincus qu'ils ne pourront pas déduire la somme de leurs impôts. Rien ne devrait pourtant changer sur cette question. Alors, si l'argent manque, la générosité n'est pas entièrement mise à mal. D'après la Fédération des banques alimentaires par exemple, on estime que les dons de nourriture des particuliers restent stables, malgré toutes les inquiétudes que l'on vient d'évoquer, avec une certaine transformation aussi des habitudes. On donne des produits un petit peu plus chers lors des collectes, un petit peu plus de viande, un peu moins de pâtes par rapport aux dernières années. À noter que ce sujet du don de nourriture, c'est justement celui de l'enquête du hashtag diffusée sur le site et sur l'antenne de France Culture ce vendredi, et sur lequel je vous invite à venir témoigner dès maintenant si vous êtes donateur sur la page Facebook et le compte Twitter FC Hashtag.
Merci Steven Goyer. Et quand l'on reparle du climat, hier, Donald Trump a, lui, sèchement rejeté les conclusions d'un rapport détaillé de son propre gouvernement qui met en garde contre les conséquences désastreuses du changement climatique sur l'économie américaine. Selon ce document, les États-Unis pourraient perdre des centaines de milliards de dollars d'ici la fin du siècle à cause des gaz à effet de serre. Je n'y crois pas, s'est contenté de répondre de manière laconique le président climato-sceptique. Une mauvaise nouvelle, en revanche, pour le milliardaire qui se vante toujours d'avoir redressé l'économie. General Motors va supprimer environ 8000 emplois en Amérique du Nord et arrêter notamment la production de ses voitures qui se vendent le moins pour s'adapter au bouleversement en cours dans le secteur automobile qui l'amène à tourner le dos tout particulièrement aux berlines traditionnelles et à investir dans les véhicules électriques et autonomes. Les mesures annoncées hier par le premier constructeur automobile américain représentent ni plus ni moins que la plus vaste restructuration en Amérique du Nord depuis sa faillite il y a 10 ans. Jamais, même après l'agression territoriale de la Russie contre l'Ukraine il y a 5 ans, Kiev n'avait osé franchir le pas. Hier soir, le Parlement ukrainien a voté l'instauration de la loi martiale pour une durée de 30 jours, un régime d'exception prévoyant notamment la mobilisation des réservistes et des mesures visant au maintien de l'ordre public. Et même si le président Petro Porochenko a pris soin de préciser que son pays n'avait pas l'intention d'entrer en guerre contre qui que ce soit, l'imposition de cet état de guerre au lendemain de l'incident survenu entre les marines russes et ukrainiennes dans le détroit de Kerch n'en demeure pas moins une mesure sans précédent donc dans l'histoire du pays. Alors, est-ce de nature à relancer le conflit entre les deux voisins ou bien s'agit-il de la part du président sortant ukrainien d'une escalade calculée pour redresser sa cote de popularité dans la perspective d'une réélection difficile en mars prochain pour un second mandat, à moins, comme le prétend Moscou, que tout ceci ne vise à alourdir les sanctions occidentales contre la Russie. Toujours est-il qu'hier, Vladimir Poutine, s'entretenant au téléphone avec la chancelière Angela Merkel, a fait part d'une sérieuse préoccupation et mis en garde l'Ukraine contre tout acte irréfléchi. Les précisions à Moscou, signé Claude Brouillot.
Après les actes, les paroles, mais le raidissement du Kremlin ne se dément pas. Vladimir Poutine a dit à Angela Merkel tout le mal qu'il pensait des dernières décisions ukrainiennes, au premier rang desquelles, bien sûr, l'instauration de la loi martiale, vue par Moscou comme une manipulation à usage interne de la part de Petro Porochenko, le président ukrainien. Le numéro 1 russe ne renie en rien les actions guerrières entreprises avant-hier par ses soldats contre les marins ukrainiens. Vladimir Poutine se fonde ainsi sur le droit international pour justifier l'usage de la force. Il profite alors de son échange téléphonique avec la chancelière allemande pour mettre cette fois la pression sur les soutiens occidentaux de l'Ukraine sur un mode à nouveau menaçant, évoquant, je cite, « tout acte irréfléchi de Kiev ». Le numéro 1 russe a clairement laissé entendre que son pays ne resterait pas sans réaction, invitant alors Angela Merkel et avec elle tout le camp occidental à convaincre le pouvoir ukrainien de mettre un terme à ces mesures d'intimidation.
Alors que c'est ouvert ce matin à Hong Kong le second séminaire international sur la modification du génome humain, une nouvelle monopolise évidemment tous les débats. L'annonce hier que des jumelles seraient nées dans le sud de la Chine, à Shenzhen, après une modification de leur génome. De quoi surprendre et surtout choquer la communauté scientifique, laquelle souligne notamment que les procédures scientifiques requises pour encadrer ce genre d'expérience n'ont pas été respectées. C'est une correspondance de Florence de Changy.
L'information selon laquelle des jumelles dont le génome avait été modifié au stade de l'embryon sont nées dans le courant du mois de novembre dans le sud de la Chine a évidemment dominé les premiers débats du second sommet mondial sur la modification du génome humain qui s'est ouvert ce matin à Hong Kong, puisque ce bond en avant, s'il est confirmé, a fait fi de toutes les questions d'éthique que se pose la communauté scientifique. Le professeur Hervé Schneiweis, directeur du Centre de recherche en neurosciences à la Sorbonne et président du comité d'éthique de l'INSERM, décrit sa réaction à cette annonce.
La surprise d'abord, parce que juste à la veille d'un sommet comme celui-là, ça vient toujours comme une surprise. Ensuite, une réaction tout à fait critique à tout point de vue. Premier point de vue, c'est que les technologies ne sont pas mûres pour une application clinique. La deuxième raison pour laquelle on doit être très critique, c'est que l'intervention n'a pas été faite pour soigner une maladie d'une particulière gravité, mais dans une vision d'amélioration de l'espèce.
Les représentants des instances scientifiques chinoises se sont offusqués de cette annonce, allant jusqu'à la qualifier de fraude. Le professeur He Jiankui, qui revendique cette première scientifique, doit prendre la parole mercredi matin.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Genève et pour deux jours la 13e conférence internationale sur l'Afghanistan, dont il est malheureusement inutile de préciser combien le pays peine à se sortir d'un tunnel qui semble n'avoir aucune issue. De nombreux ministres des Affaires étrangères doivent assister à ce sommet dont l'objectif ne sera pas seulement de faire le point sur le pays, mais aussi de rappeler à l'ordre les États qui avaient promis un financement de plus de 15 milliards de dollars d'aide en 2016 et qui n'ont toujours pas tenu parole. On termine avec un mot de météo. Une nouvelle perturbation pluvieuse gagnera un bon quart nord-ouest du pays sur le pourtour méditerranéen. En revanche, le soleil sera généreux. Enfin, partout ailleurs, là, ce sont les nuages qui domineront assez largement. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.